L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
On se retrouve, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur 48FM pour le numéro 2 de L'Oz Actuali dans cette troisième saison. Notre invité aujourd'hui, Morgane Lemoal de Style Lozère. On va parler d'une opération qui s'appelle Visite d'entreprise, partez à la découverte des savoir-faire de Lozère. Et évidemment avec toute l'équipe, toute la nouvelle équipe de L'Oz Actuali, pour ceux qui ne l'ont pas encore retrouvé, qui ne nous ont pas encore entendu ces 15 derniers jours, on retrouve Léa. Bonjour Léa.
Bonjour.
On retrouve également Bastien.
Bonjour.
Et Eric.
Bonjour les gens.
Bien. Et voilà, donc au programme aujourd'hui, donc on l'a dit, notre invité. Eric, tu nous parleras de quoi dans ta chronique?
Un mot tendance.
Un mot tendance.
Ouais. Un concept.
Ok. Un concept. Léa ?
Eh ben, moi, j'ai fait des petites recherches sur le monde artistique ce week-end, des recherches assez spéciales, on va dire.
D'accord. Et puis, le hashtag du moment.
Le hashtag du moment, c'est l'éviction de Patrick Sébastien. Voilà, symbole du renouvellement des grilles de France Télévisions.
Allez, un petit hashtag Patrick Sébastien, et puis il y aura une revue de presse avec du GIEC, Jacqueline et son CDI, la journée mondiale du lavage de mains et du Brexit. Voilà le programme de cette émission. C'est parti. Allez, première partie de cette émission avec Morgane Lemoal, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe et tous les auditeurs.
Vous êtes un nouvel arrivant en Lozère, ça fait quelques temps maintenant, mais...
Oui, ça va faire 4 ans et ça fait 3 ans que je suis en activité au sein de l'entreprise Style Lozère.
Alors, peut-être on peut, la première partie de cette interview, on va essayer de faire connaissance un petit peu avec vous. Qu'est-ce qui vous a fait venir par ici?
Oh, c'est assez simple. En fait, c'est l'amour avec un grand A qui m'a décidé de changer de vie et changer de métier. Et pour revenir à un métier source, celui pour lequel j'ai commencé à travailler au départ. Et voilà, et je regrette absolument pas, puisque l'accueil lozérien est à la hauteur de ce que j'espérais. Et je me revendique fier d'être lozérien d'adoption.
Alors aujourd'hui, on peut dire que vous êtes ferronnier, métallier...
Oui, c'est un petit peu un mélange de tout ça, effectivement, serrurier, métallier, ferronnier. En gros, c'est tout ce qui touche au travail des métaux et... très principalement de l'acier. Et puis bon, après, ça m'arrive de travailler certains alliages d'inox ou d'aluminium. Mais en fait, c'est une activité qui regroupe tous les ouvrages du bâtiment métallique. Donc aussi bien des escaliers que des garde-corps ou des verrières qui sont en ce moment un petit peu, je dirais, en pointe dans l'habitat moderne. Et donc je travaille ces matériaux-là pour faire ce genre d'ouvrage.
Et alors, votre parcours professionnel, vous disiez que ce n'était pas tout à fait le même métier au début, alors, si c'était la formation de départ et puis,
Oui, en fait, le fil rouge au travers de mes activités professionnelles, c'est quand même le savoir-faire métallurgique. Mais j'ai dérivé après mes formations pour aller vers la construction navale et notamment de la chaudronnerie navale, pour laquelle j'étais devenu spécialiste et chef de projet. Mais je ne touchais plus du tout aux matériaux sur la fin de cette carrière. Et il a fallu que je revienne aux sources purement par envie. Et j'ai saisi cette occasion de rejoindre ma compagne en Lozère pour faire de ce projet une réalité. Et du coup, je me sers de tous les savoir-faire que j'ai appris au travers de la construction navale. les faire transparaître et les intégrer dans l'ouvrage métallurgique du bâtiment, ce qui donne un peu des choses un peu intéressantes et de transposer ces technologies-là et ce savoir-faire-là sur la ferronnerie.
Il faut quoi comme formation initiale avant tout ça ?
Pour être ferronnier ?
Oui.
En fait, il suffit d'avoir un parcours en lycée professionnel ou en lycée technologique pour obtenir ou un CAP, un bac pro ou un BTS. Moi, en fait, je suis passé par le lycée technologique et puis après, j'ai continué sur un BTS, mais qui était basé sur la chaudronnerie navale. Donc après, j'ai encore continué, puis je suis devenu... j'ai acquis l'expérience pour devenir chef de projet et architecte naval. Et donc j'ai lâché la ferronnerie et la chaudronnerie pour me consacrer principalement à de l'ingénierie, ce qui m'a permis par la suite ensuite de revenir en tant que ferronnier avec un regard assez généraliste sur la façon de traiter un projet et surtout de savoir tenir un crayon. Donc c'est un avantage parce que aujourd'hui j'ai la capacité de partir d'une feuille blanche, d'analyser les besoins de mon client, de les transposer sur du croquis et ensuite de faire de ce croquis une réalité, tout en ayant à cœur de faire en sorte que mon client soit le plus acteur de son projet, c'est-à-dire aller cerner ses besoins et devenir son porte-crayon pour dessiner l'objet qu'il souhaite avoir.
Cette dimension de design, de création qui a une partie artistique, elle est venue comment justement dans votre parcours ? C'est votre sensibilité ? C'est quelque chose qui s'est construit avec l'aspect naval ?
Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, moi je suis issu déjà d'une famille qui est un peu créatrice. Mon père n'est pas du monde de la ferronnerie, mais mon grand-père l'est. Et donc j'ai eu cette sensibilité sur le savoir-faire métallurgique assez tôt. Et après, au travers mes études et puis ma curiosité, je me suis un petit peu passionné pour le dessin et le design. Et du coup, n'étant pas designer, j'essaye quand même un maximum d'intégrer cette composante dans mes projets. Et c'est d'ailleurs l'un des axes de développement qu'on cherche, parce que ma compagne m'aide énormément dans le développement de Style Loser, qu'on cherche à développer au cours des futurs projets et futures années.
Aujourd'hui, dans l'entreprise, vous êtes que tous les deux ?
Oui, alors en fait, ma compagne a une activité professionnelle à côté, donc elle me donne énormément de son temps libre pour m'aider à gérer et à faire en sorte que Style Loser reste en bonne santé, parce qu'il n'y a pas que l'atelier, il y a aussi une partie gestion qui est prépondérante, et ça nécessite énormément de temps. Et donc après, effectivement, à l'atelier, en production, je suis seul. Et pour la pause, après, je travaille avec des partenaires qui viennent m'aider, donc d'autres artisans avec lesquels je travaille. Et on mutualise nos savoir-faire, on mutualise nos bras et nos mains pour poser les gros éléments lourds, notamment les escaliers, les choses comme ça qui nécessitent d'être deux ou trois.
Alors, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, les produits que vous réalisez, c'est des cartes de corps, des escaliers, des verrières.
Oui.
Un petit peu, enfin, je sais pas, vous pouvez nous présenter un petit peu justement ces réalisations-là. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Quel est l'intérêt de les faire aussi en métal ? Parce qu'on peut les faire dans différents matériaux.
Alors en fait, le métal, c'est un gros, gros, gros avantage, si vous voulez, c'est qu'on peut déjà lui donner plusieurs aspects. Et on a le deuxième avantage, c'est la capacité structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des choses qui sont plus légère qu'avec des matériaux type béton ou bois, puisqu'on est capable d'acquérir une résistance mécanique équivalente, voire supérieure, en ayant des sections minimum. Donc l'idée de faire du métal, c'est aussi de donner un petit peu de légèreté à tout ça, et puis on peut lui donner aussi des aspects différents selon les traitements qu'on veut lui apporter, quoi.
Alors, j'avais deux questions. C'est comment on le travaille, le métal, et surtout comment on se fournit ?
Alors,
où est-ce qu'on se fournit ? Ouais.
Alors, il y a plusieurs fournisseurs qui sont losériens, déjà, je tiens à le préciser. En fait, bon nombre des fournisseurs et partenaires de Style Loser sont vraiment losériens. Après, ils sont frontaliers aussi, pour certains. Et le métal, en fait, vous l'avez sous plusieurs formes. Vous l'avez sous forme de plaques, de ce qu'on appelle de tôles aussi, de profilés. Et puis après, en façonnant ces profilés, on arrive à leur donner des formes différentes. C'est là que justement le savoir-faire de chaudronnerie prend tout son sens, puisque du coup, vous êtes capable de faire des formes complexes avec, à la base, des plaques et des feuilles de métal, quoi.
Est-ce que c'est facile de trouver une place dans les maisons traditionnelles lozériennes pour justement les réalisations en métal ?
Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a des vraies pépites en Lozère, aussi bien d'un point de vue architectural que patrimonial. Et on se rend compte que souvent, ce sont des éléments en pierre, ce sont des éléments avec des murs qui sont très riches visuellement et puis qui méritent qu'on leur donne un peu de caractère. Et on se rend compte que la sensibilité de nos clients, elle s'oriente un petit peu vers des choses avec trimatières, c'est-à-dire du métal, du bois, de la pierre. Donc quand vous associez ces trois éléments qui sont assez finalement simples, eh ben vous donnez un vrai caractère et puis vous ne cassez absolument pas le caractère ancien ou patrimonial d'un ouvrage. Et après, on a aussi la chance à Mende et même dans les villes et villages alentours d'avoir des constructions neuves. Et les gens ont ces sensibilités-là également. Et puis, je tiens aussi également à souligner le fait que nos clients lozériens ont un véritable sentiment de conservation et puis surtout un esprit de soutenir l'artisanat local. Et on le voit, on a vraiment un groupe de clientèle, moi et mes confrères, qui sont attachés au fait que ce soit fait ici, fait à la main, et puis qu'il y ait un caractère un peu unique aux objets. Et ça, c'est pour avoir connu d'autres villes ou des grandes agglomérations, on n'a pas forcément ce caractère-là. Donc on a les moyens ici de s'exprimer sur du sur-mesure et puis de faire un vrai projet unique pour chacun des clients, quoi.
Et c'est ça, en fait, chaque pièce est unique, en fait.
Ah oui. C'est, à la base, le client vient chez moi, il a parfois des idées, d'autres non. Donc il feuillette les books et les documents de mes réalisations. Et puis, on commence à cerner un petit peu, c'est un tour de table, un peu comme ici, hein, à cerner un petit peu ses sensibilités. Et puis, à partir de là, on détermine un budget. Puis, quand on sait qu'on peut aller plus loin, eh ben, on dessine les choses. Et puis, on fait des allers-retours, un peu, parfois denses, parfois pas du tout, parce qu'on a trouvé très, très vite les éléments. Puis, on passe ensuite à la réalisation, oui.
Et alors, dans un article de la Lozère Nouvelle de janvier, vous parliez aussi d'horlogerie.
Ah oui, alors ça, c'est une petite passion aussi que j'ai. En plus, je me suis trouvé un ami qui est horloger, meilleur ouvrier de France, qui est l'horlogerie Montréleur à Mende, et qui aime le métal, qui aime les objets un peu uniques. Et du coup, on a mixé un peu nos savoir-faire et on a décidé de revisiter un peu les comptoises un peu rustique, lourde, pas forcément facile à s'adapter à nos intérieurs un peu plus modernes. Et du coup, on revoit ça. Et alors ça, c'est justement au travers d'un axe de développement de style Lozère qui se fait à travers la marque Kérosène Création, qui est une marque que j'ai créée et qui fait exclusivement du mobilier sur mesure. Donc, ces horloges, ça peut être des barres, des luminaires. Et on part vraiment pareil d'une feuille blanche ou même de projets que j'ai déjà dessinés. Il y en a des carnets de croquis entiers. Et on pioche à travers ce corpus de projets et je fais que de la pièce unique ou en série très très limitée. C'est-à-dire que je peux faire 5 lampes semblables et elles sont signées, numérotées, je les arrête. Après, j'en fais plus. Donc c'est vraiment aussi cette idée d'avoir quelque chose d'un petit peu, d'avoir du caractère. Et toutes les pièces de ces meubles, alors elles sont parfois taillées au laser parce qu'on utilise quand même des nouvelles technologies ou même des matériaux composites. Mais elles sont toutes faites à la main ou dessinées chez nous. Il n'y a pas de pièces du commerce brut directement assemblées, quoi.
Et j'imagine que, enfin, vous avez plein de chantiers, plein de projets. Ces mobiliers, enfin, vous arrivez à rentrer tout ça dans l'année, dans.
Ah bah je passe une annonce. Si vous avez une machine à faire des journées de 36 heures, ce serait pas mal. Non, c'est pour ça que ça nécessite beaucoup de temps et que le projet de mobilier n'est pas vraiment encore posé sur des rails. C'est que aujourd'hui, je privilégie quand même le fait de livrer mes clients au mieux dans le carnet de commandes que j'ai, hein. Et donc, c'est pour ça que le mobilier, pour l'instant, n'est pas lancé à sa juste valeur. Mais on a déjà des partenaires qui sont prêts, alors pas forcément en Lozère, mais prêts à accueillir du mobilier Kérosène Création dans leur cabinet de curiosité, dans leur boutique, pour justement développer cet axe.
Des questions, mes chers camarades ?
Ça m'a paru assez clair.
Mais je vous remercie.
Bon, on va poursuivre cette émission. On aura l'occasion de reparler de vous, de ce que vous allez pouvoir présenter justement aux visiteurs lors de... j'ai perdu mon papier. Lors du 22 octobre, hein,
oui,
pour la visite de votre atelier, hein, j'imagine.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Donc on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Éric. Donc, un mot qui fait recette en ce moment.
S'il y a bien un mot tendance du moment, celui qui est mis à toutes les sauces, c'est bien le mot disruptif. Alors, qui autour de cette table ou de l'autre côté du poste de radio n'a pas lu ou entendu ce mot de disruption et ses dérivés que l'on rencontre un peu partout aujourd'hui? Toutes les nouvelles technologies ou les innovations doivent être disruptives ou ne pas être. Même le nouveau gouvernement a eu besoin d'être disruptif. Bon, améliorer ne suffit plus, il faut innover, casser les codes, oser la rupture, être disruptif. On dirait une pub de chaussures de sport avec une virgule dessus. Mais bon. Ainsi, on entend parler de président disruptif, de start-up qui a pour ambition de disrupter le secteur de la douche, ou d'autres qui veulent disrupter le schmilblick. Il paraît même que les invités mystères d'émissions télé sont parfois disruptifs. Si disruption s'est échappée du cercle restreint des cruciverbistes, pour se retrouver de manière très présente, dans le vocable d'aujourd'hui, c'est surtout dû à son emploi dans le milieu de l'économie, avec l'apparition de jeunes entreprises, les fameuses start-up, qui ont su utiliser les outils numériques pour transformer certains marchés. Et c'est d'autant plus vrai dans les médias français. C'est que le terme se distingue de ses équivalents traditionnels, car il remplace désormais presque systématiquement les mots rupture, fracture ou encore perturbation. Car le point commun de ces termes, c'est qu'ils portent en eux une charge négative. Rupture renvoie à la fin de la relation amoureuse, fracture à une douleur physique, perturbation à un dysfonctionnement. Alors que l'idée même de disruption s'appuie sur un process selon lequel l'innovation, la nouveauté, le changement, la créativité sont positifs en soi. Et que tout ce qui vient brider ce changement est affreux, irrationnel et coupable. D'ailleurs, le changement ne relèverait pas d'une décision, mais d'un phénomène aussi nécessaire que les lois de la nature. Il s'agit donc bien plutôt d'accompagner ce changement que d'essayer de le freiner ou de l'orienter. Ainsi, les oracles de la Silicon Valley nous promettent l'homme augmenté, le cerveau pimpé, à l'horizon 2020, ou 2030, ou 2050. Enfin, ça dépend de la force du vent. Il nous répète que nous avons tous à y gagner. Le futur déboule à 100 à l'heure. Il est là, devant nous. Et qui pourrait avoir l'idée saugrenue de détourner le regard, ou pire, de jeter un coup d'œil en arrière? La disruption est ainsi un cas typique de ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices de l'économie de marché. Puisque le changement arrivera nécessairement, il s'agit d'en être avant les autres. Et ce faisant, le changement arrive. Les exemples ne manquent pas, déjà en économie, comme en politique. Il en va des réformes, des retraites, de la SNCF, du lycée ou encore de certaines usines ou entreprises qui ferment par anticipation alors qu'elles se portent bien actuellement. Ce qui serait bon pour une entreprise le serait pour toute la société. Alors quand on parle de nouveaux modèles économiques, on pense aussi à Uber, Airbnb ou Netflix qui ont cassé les systèmes qui paraissaient établis des taxis, de l'hôtellerie ou de la location de films ou de séries en proposant des services innovants. Devenir soi-même le chauffeur de sa propre voiture. Ça, c'est innovant. Bon, depuis, tout entrepreneur qui a de l'ambition et espère connaître un succès aussi important que les entreprises citées souhaite trouver l'idée disruptive qui lui permettra de transformer un marché pour faire table rase du passé. Alors, force est de constater que le marketing et les médias ont employé ce mot à tire-larigot et qu'il peut être désormais utilisé dans n'importe quel contexte au lieu de changer ou transformer. Maintenant, on ne schtroumpfe plus, on disrupte. Ne vous étonnez pas si votre voisin se vante d'avoir disrupté la pelouse en la faisant passer d'abondante à tondue. Dès lors, on disrupte à tout va. Alors, allez, pour vous dire la vérité, je trouve que ce mot est mal formé. Ce n'est pas si évident d'utiliser ce S avant le R. L'effet sonore me semble moyen. Je me suis beaucoup entraîné avec ce SRE-là. Il n'est pas logique dans la langue française, mais on me dira certainement que je prends mes répulsions pour des réalités. Mais bon, ce tic de langage doublé d'un anglicisme, oui, parce qu'en plus, c'est bien un anglicisme, encore un, que finalement, j'ai comme... un préjugé sur le concept. On voit bien aussi que son usage politique a de problématiques. Si l'idée du faire mieux se confond avec celle du faire moins cher, alors il va de soi qu'elle constitue plutôt une menace pour l'intérêt général, qui suppose qu'on ne devrait pas regarder à la dépense pour certaines choses, par exemple les hôpitaux ou encore les unités de recherche qualifiées de non rentables à l'université. S'il n'est pas question de faire machine arrière et de renoncer au progrès de la technologie, peut-être faudrait-il prendre le temps de les intégrer, de les digérer, de les mettre réellement au service de l'humain. Ne pas oublier la définition première de disruptif. Cet objectif était employé à l'origine dans le domaine électrique. Un champ disruptif est un champ électrique capable de provoquer une décharge accompagnée d'une étincelle. Ah, l'étincelle. Il faudrait ainsi se rappeler qu'avant d'être disruptif et de penser différemment, il faut commencer par penser, tout court.
Merci Eric. Alors, Morgane Lemoyle, est-ce que vous êtes disruptif?
Non, je ne sais pas trop. C'est vrai que ce mot, on le sort à toutes les sauces, c'est assez marrant. Il y a des espèces de mots tics un peu comme ça qui sortent au fur et à mesure, au gré des modes. C'est assez marrant, oui.
Bien, allez, on va faire la première coupure musicale de cette émission avec votre choix. Et vous avez choisi U2.
Ouais, c'est ça, oui, j'aime beaucoup U2. Pour les engagements et puis surtout pour le côté rock.
Enfin, et voilà. Vous travaillez en musique ou c'est pas trop possible?
Constamment.
Ouais. On en reparle un petit peu plus après, justement, de l'ambiance de votre atelier qu'on pourra découvrir dans la deuxième partie, juste après U2. Deuxième partie de l'émission, bah voilà une pause musicale qui nous a mis en forme. On n'a pas eu le temps de manger, mais voilà. C'est pas grave, on poursuit cette émission avec Morgane Lemoal, donc de Style Lozère. Et donc, on va parler un petit peu plus de votre atelier, de ce que les gens vont pouvoir venir découvrir lundi 22 à 10h. Voilà, c'est des visites qui sont proposées, visites d'entreprise, partez à la découverte des savoir-faire organisées par la CCI de la Lozère en partenariat avec le département. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va découvrir quand on vient chez vous et qu'est-ce que vous allez proposer
Déjà de voir un peu mon lieu de travail, parce que c'est vrai que travaillant seul, souvent les clients qui passent un petit peu à l'improviste à l'atelier peuvent trouver souvent porte close, puisque je suis parti sur chantier ou en tout cas gérer la production, mais ailleurs qu'à l'atelier. Donc déjà, c'est voir un peu où je travaille et puis voir un petit peu mes moyens de production. Alors après, ça reste assez simple. L'atelier n'est pas très grand, justement. C'est un peu l'objet de l'actualité de l'entreprise. Et donc, vous allez voir un petit peu des exemples de réalisation au travers de documents que je montrerai sur place. Et puis de voir un peu comment ça s'organise, comment on fabrique, quoi.
Il y a des démonstrations de fabrication.
Pourquoi pas, j'ai pas encore envisagé le programme. C'est vrai qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, on va être plutôt dans une phase où on va aller poser des choses chez des clients. Donc c'est vrai que l'atelier sera pas forcément en pleine activité avec du bazar partout. C'est aussi un peu compliqué dans la surface que j'ai de présenter des choses en cours de construction, puisque ça peut être aussi dangereux,
et oui.
Donc il faut tenir compte de ça aussi. Mais vous allez voir un petit peu comment fonctionne une ferronnerie, quoi, du produit de départ jusqu'au produit fini.
Alors ce local, vous l'évoquiez juste avant, c'est un atelier de la CCI.
Oui, tout à fait, la CCI, au moment où j'ai créé Style Lozère, m'a proposé un atelier relais. Donc en fait, c'est une pépinière d'entreprise pour faire démarrer des entreprises. Et aujourd'hui, il m'accompagne encore jusqu'à la construction finale de mon atelier, mon futur atelier, qui sera non loin de l'atelier actuel, puisqu'il sera toujours sur le Causse d'Auge. Donc les gens ne seront pas perdus, mais qui nous permettra d'avoir une aisance de production, parce qu'aujourd'hui, la surface n'est plus suffisante pour accueillir l'ensemble des réalisations à venir et futures. Donc on va normalement, cet atelier devrait sortir de terre courant 2019.
C'est plutôt bon signe pour vous, du coup.
Ah oui, c'est porteur. On travaille en tout cas pour que ça le soit. Et puis je pense que c'est intéressant, effectivement, d'avoir un nouvel outil de travail. Ça va nous permettre de développer tous les éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Plus on a de surface, plus on a de capacité de se tourner, de pas trop complexifier les manutentions, ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'on aura un gain de productivité. Et puis peut-être, si l'avenir est toujours aussi porteur, pourquoi pas s'entourer d'une équipe peut-être plus grande. Je sais pas, ça peut être l'objet de la trajectoire future, oui.
En termes d'outils, vous vous servez de quoi ? Vous vous servez de la chaleur, comment ça marche ? Expliquez-nous
comment
un peu.
Comment ça marche ? Alors en fait, c'est assez simple. Le menuisier, quand il travaille du bois, il déligne des profilés et ensuite il les colle ou il les agrafe ou il les visse. Nous, on les agrafe pas, on les visse pas parce que c'est plutôt compliqué. Donc on soude. Et on a plusieurs technologies de soudage qui, effectivement, l'élément central, c'est quand même la chaleur, quoi. Au travers d'un arc électrique, on fait fondre le métal et on vient assembler deux pièces. Et donc, tous ces profilés arrivent sous sections diverses. Je les énumère pas toutes, puisqu'il y en a un catalogue entier. Mais on choisit les sections qui nous paraissent les meilleures selon la réalisation de l'objet. Et puis, on les met en forme, on les coupe, on les déligne, on les cintre. Donc, on a des machines qui permettent de faire ça.
Est-ce qu'on peut travailler des couleurs ?
Alors, oui, on peut travailler des couleurs. Ça reste. Alors, la couleur, chez nous, il y a deux manières de la traiter. Soit on la traite directement sur le matériau, c'est-à-dire que l'acier, quand vous l'avez sous forme brute de chez le fournisseur, elle est noire, elle est ce qu'on appelle un peu calaminée, elle est grise foncé. Et quand on vient la travailler, la souder, elle apparaît en fait le métal à vif, qui est plutôt gris clair, un petit peu comme vous voyez le gris métal sur certaines automobiles ou certains objets, ça a cet aspect-là. Et donc on peut jouer sur ces couleurs, on peut brosser, on peut polir, ce genre de choses. Et puis après, si vraiment on veut donner de la couleur, eh ben on va aller plutôt travailler sur du traitement de surface, soit peinture ou thermolaquage ou galvanisation, donc des traitements qui sont un peu plus aptes à supporter de la corrosion ou des choses comme ça. Voilà.
Et ça, vous êtes capable, enfin, vous avez tous les...
Alors non, moi je peux peindre, ça c'est sûr, j'ai l'outillage pour peindre de manière classique, hein, comme un carrossier peint une voiture. Après, pour tout ce qui est traitement thermique et traitement de surface, là, on fait appel à des entreprises qui ont des moyens plus importants. Alors malheureusement, on n'a pas ce genre de service en Lozère pour le thermolaquage et la galvanisation, parce que ça nécessite des très très gros équipements. Il y a des contraintes aussi liées à l'environnement, puisque c'est quand même pas anodin, ce genre de choses. Donc effectivement, ça, on le fait sous-traiter aujourd'hui. On n'a pas vraiment le choix, mais tous mes confrères font pareil. Mais par contre, on a l'avantage aussi, à travers ça, d'avoir quelque chose de durable. Et je pense qu'aujourd'hui, la durabilité est un axe principal aujourd'hui à donner à nos objets, à nos maisons.
Et par exemple, ces traitements, ils interviennent après votre travail de fabrication. C'est plutôt la dernière étape.
Oui, principalement, puisque si vous retravaillez les métaux après ce traitement, vous altérez ce traitement et du coup, il n'y a plus de caractère durable.
Comment est-ce que vous choisissez les métaux que vous allez utiliser ? C'est en fonction du projet, en fonction justement de leur durabilité ou...
Oui, tout à fait. Si on prend par exemple l'idée d'une terrasse ou d'une passerelle industrielle donc qui va être dehors, bon, on va choisir des profilés en acier qu'on va faire galvaniser puisque ils sont plutôt, la galvanisation est le meilleur traitement en termes de rapport qualité-prix pour que ce soit durable. Donc effectivement, dès la conception, dès le démarrage, on va faire des choix techniques sur le matériau. Après, si on a des budgets beaucoup plus élevés, on peut attaquer sur des matériaux qui sont d'eux-mêmes anti-corrosion, comme l'inox. Après, c'est vraiment une affaire de budget, quoi. Après, il y a une affaire d'aspect. Si on écarte le côté budgétaire, c'est sûr qu'on peut vraiment avoir tous les choix possibles.
Et personnellement, quel est le métal que vous préférez utiliser ?
J'aime beaucoup l'acier parce qu'on peut lui donner vraiment des aspects un peu différents. Le fait de pouvoir le brosser, le traiter de manière différente, on peut l'acier est quelque chose d'assez intéressant. Puis il y a un autre avantage, c'est que il est aujourd'hui le plus compétitif en termes de métaux à usiner pour faire des ouvrages de ferronnerie, quoi. Donc principalement j'irai chercher l'acier. Après j'ai un petit penchant pour le côté technique de l'aluminium. Alors l'aluminium, ne le voyez pas comme la menuiserie aluminium, voyez-le plutôt comme le matériau aluminium au sens léger du terme. Et ça c'est mon petit côté naval qui revient au galop, parce que c'est un matériau qui est assez capricieux à travailler, donc ça nécessite un petit savoir-faire technique intéressant.
Mais que vous utilisiez dans la construction navale, oui. Par rapport au poids, j'imagine.
Ce que j'ai transposé de la construction navale, c'est la notion d'optimisation. Il faut savoir que quand vous avez un voilier sur l'eau, parce que c'était ma spécialité, les voiliers de voyage, il y a un caractère, il faut qu'il soit résistant, il faut qu'il soit anti-corrosion, il faut qu'il résiste aux affres et aux caprices de la mer. Vous avez pu le remarquer, il y en a eu ces derniers temps. Donc en fait, tout ça nécessite un caractère optimisé, c'est-à-dire choisir un dispositif constructif qui permet d'avoir le bateau le plus joli, le bateau le plus léger et aussi le bateau le plus résistant. Et donc c'est cette espèce de fenêtre de tir un peu qu'il faut ajuster. Et ce savoir-faire-là d'optimisation, de compromis, ben je l'ai transposé directement à la ferronnerie pour avoir des escaliers légers, pour avoir des escaliers qui puissent aussi rentrer dans le budget du client. Tout ça, ça fait partie d'un processus d'optimisation et de dessin qui est hérité purement de la construction navale. Oui.
Est-ce qu'on vous a déjà demandé des pièces très particulières ?
Ah oui, oui.
Des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire ?
Ah oui, oui, là j'ai livré pour un client qui n'est pas lozérien, mais qui est à côté de Nice. j'ai fait un ballon de rugby, qui est, mais vraiment un ballon de rugby en tôle, donc il n'est pas à plein, c'est que du savoir-faire de tôlerie et de carrosserie et de chaudronnerie. Et je l'ai fini en fait brossé, et j'ai juste dessiné les coutures à la peinture noire. Vous avez cet élément brossé, et pour faire plaisir au client, on lui a livré dans une boîte qui est en bois et en métal, donc il y a un côté un petit peu aussi sympa d'avoir la boîte siglée Kérosène Création. Donc c'est un élément unique, oui. C'est vraiment le truc dingue un peu que j'ai fait récemment, en tout cas.
Alors, cette visite de Style Lozère, c'est donc le lundi 22 octobre à 10h. Ça dure à peu près une heure et c'est sur réservation. Il faut appeler l'entreprise directement ?
La CCI.
La CCI, ok. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, le contact, vous le trouverez facilement. Et donc, l'entreprise, elle se situe rue de la Drenne, sur la zone du Causse-d'Auge.
Tout à fait, c'est ça.
Voilà, et donc durant ces visites d'entreprise, donc du 22 au 26 octobre, il y a de nombreuses visites aussi qui sont proposées à tout le monde. Hein, c'est ouvert à tous et c'est gratuit la plupart du temps. L'entreprise Mercorn à Langogne, la filature des calcaires également à Langogne, alors elle qui est payante puisque c'est un musée, la visite donc de Style Lozère, on vient d'en parler. On retrouve aussi un de vos voisins rue de la Drenne aussi au Causse-d'Auge avec la brasserie la 48, la brasserie
oui,
de Lozère.
D'ailleurs je les salue, on était voisins il y a peu de temps encore.
Voilà, les cuisines et meubles Bringer aussi à Mende, toujours, hein, c'est juste une rue qui, oui. est dense.
C'est prolifique.
C'est ça. le moulin de la Bourrie, alors ça, ce sera à Hurlaparade sur le Causse-Méjean. Le Fédou, la fromagerie de Yelzas également à découvrir. Là, c'est dans le cadre aussi du produit. J'ai perdu des brebis et des hommes, voilà. L'atelier Tufféry à Florac avec la fabrication de gin, la maison Clavel à la Canourgue avec de la charcuterie des salaisons, et puis la visite aussi d'ArcelorMittal, l'usine métallurgique à Saint-Chély, et la brasserie de la Naine également à Saint-Chély, toute nouvelle brasserie qui se développe, et puis également l'entreprise Boucharin qui fabrique des chaussures orthopédiques. Qui est assez aussi intéressante à visiter. Voilà, donc plein de propositions durant cette semaine du 22 au 26 octobre 2018. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la CCI Lozère, www.lozere.cci.fr, et le numéro de téléphone, on le disait tout à l'heure, 04 66 49 00 33. Bien, on reparlera un petit peu avec vous de votre métier, mais on va poursuivre et puis de qui vous êtes dans le portrait chinois dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique de Léa. Nous allons partir dans l'art. Allez, c'est parti Léa, donc une plongée dans le monde fascinant, ou pas, de l'art, tu m'as dit.
Une plongée dans les abysses, voilà, pour être exact. Non, la semaine dernière, il y a eu une petite révolution dans le monde de l'art. Une œuvre du célèbre graffeur Banksy a été cédée pour plus d'1 million d'euros avant de s'auto-détruire. Alors, le dessin a été découpé en lambeaux avant d'atterrir dans une poubelle. La petite fille au ballon a donc été renommée « L'amour à la poubelle » par l'artiste qui avait apparemment tout prévu depuis le début. Alors, certains crient à l'arnaque, d'autres au génie, mais l'acheteuse britannique a tout de même confirmé son achat. Banksy n'avait en effet pas retiré ses bouts de papier de la vente, et oui, avant-gardiste, mais pas fou le mec. Pour ce prix, j'espère que sa nouvelle propriétaire aura au moins une poubelle 10 carats. Mais ce n'est pas la seule histoire qui a secoué le monde de l'art cette semaine, enfin la semaine dernière, puisque Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé la mise en place des tulipes de Jeff Koons près du Petit Palais. Une œuvre géante représentant un bouquet de tulipes offerte par l'artiste après les attentats de Paris, mais qui n'est pas du goût de tous. Vous vous souvenez peut-être également de l'autre œuvre qui avait causé l'émoi des Parisiens il y a quelques mois, le sapin gonflable géant de Paul McCartney. qui ressemblait plus à un objet qu'on sort le soir de la Saint-Valentin que celui de Noël. Enfin bon, qui a tort, qui a raison, je ne suis pas ici pour prendre parti. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'art ne laisse personne indifférent. Et ça, ça ne date pas d'hier, des impressionnistes à Marina Abramovic, les artistes aiment bien nous bousculer un peu. Seulement, il y a les coups de génie comme Banksy, et il y a les œuvres qui laissent un peu plus... perplexes. Avec l'avènement des plateformes vidéo, on a maintenant accès à des chaînes YouTube entièrement dédiées à des performances artistiques. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont présentées. Alors, je me suis lancée dans les limbes 2.0 ce week-end pour vous composer un petit fleurilège de trois artistes aussi géniaux qu'incompréhensibles. On va commencer par un jeune qui s'appelle Benjamin Bennett et qui est le mec le plus sympa du monde. Si, si, je vous assure, ce mec sourit tout le temps, pendant 4 heures, assis en tailleur, en train de vous fixer sans bouger, tous les jours. Voilà. Bon, moi je trouve ça incroyablement malsain, mais si vous vous ennuyez ferme, quoi de mieux qu'une petite battle de sourire avec Benjamin ? Car oui, Benji est également disponible sur Twitch et vous pouvez donc encourager ses zygomatiques en live. Je tiens à préciser qu'aucune interprétation n'est proposée par les artistes que je vais énumérer, donc j'en proposerai une à chaque fois de mon cru. Ici, je pense qu'il s'agit de la personnification du passif-agressif, car si ce jeune homme vous semblera d'abord avenant de par son sourire engageant, vous vous sentirez très vite une espèce de crispation envahir tout votre corps avant de se déchaîner sur votre écran. Et ça tombe bien parce que j'ai justement ce qu'il vous faut avec Food Fight numéro 2. Une performance réalisée par une étudiante des Beaux-Arts qui la met en scène gant de boxe au poing en train de livrer le match de sa vie contre un tas de grains de riz. Voilà, je tiens à rassurer notre jeune audience, la jeune femme ne frappe pas physiquement le riz, elle ne fait que mimer l'action. Alors ici, j'ai plusieurs interrogations qui me viennent tout d'abord. Pourquoi ? Voilà, un grand pourquoi. Pourquoi Food Fight numéro 2 ? Y a-t-il un numéro 1 ? Est-ce un match retour ou le deuxième combat de ces vaillants grains de riz dans le plus grand championnat de free fight du monde ? Est-ce une allégorie de la lutte contre la faim ? Est-ce du riz camargué ou du riz extra fin de Thaïlande ? Et mon Dieu, qu'a-t-il fait pour se faire malmener de la sorte ? Une chose est sûre, après 3 minutes d'enchaînement intense, la jeune femme est à bout de force alors que le riz, lui, stoïque, est resté maître de ses émotions et ne semble pas montrer une quelconque trace de fatigue. Pour résumer, je ne sais pas ce que je regarde, mais je pose un pari de 10 contre 1 pour le riz. Mais l'absurde n'est pas l'apanage des Occidentaux, loin de là, puisque notre dernier grand artiste s'appelle Fuyuhiko Takata. Il est japonais et je ne sais pas si sa vidéo Love Exercise a réellement sa place sur YouTube malgré la limite d'âge imposée. Dans cette vidéo, 3 personnes sont mises en scène, Fuyuhiko est derrière la caméra et on ne voit pas son visage, mais vous aurez le plaisir d'entendre sa respiration saccadée et ses gémissements de plaisir pendant les 3 minutes les plus longues de votre vie. La seule partie de son corps exposée, c'est sa main qui tient un petit cupidon en plastique. Voilà, face à lui, le corps d'une femme, puis d'un homme, à moitié nu évidemment, recouvert de têtes de poupées. Alors c'est glauque à souhait, hein. Fuyuhiko tapote gentiment de sa flèche de l'amour certaines têtes qui sont placées absolument partout, sur le corps de ses victimes, de ses amis artistes, et ceux-ci doivent s'arranger pour faire s'embrasser les poupées sélectionnées avec leurs membres. Voilà. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à une sorte de Twister infernal édition 18 ans et plus, mais comme pour les autres vidéos, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein. En effet, les poupées sont toutes d'origine différente et Fuyuhiko forme autant de couples gays qu'hétéros. Tout ceci ne pourrait être alors qu'un message de tolérance. Je vois vraiment le mal partout. Pour la précision, la vidéo de Love Exercise n'est qu'un trailer. Donc, mon cher Fuyuhiko, sache qu'ici, en France, nous attendons tous la version finale avec impatience. Voilà, c'est ici que s'achève mon périple dans les tréfonds artistiques youtubiens. Et si je me sens aussi néophyte qu'avant qu'après ce visionnage, j'en ressors fort d'un enseignement... c'est que l'art, s'il ne rassemble pas toujours, a au moins le mérite de nous faire bien marrer.
Oui, et de faire parler, je crois que c'est aussi une des vertus de l'art, et c'est très bien. Mais par contre, on se demande sur quel site tu traînes.
Sur YouTube.
Mais bon,
sur YouTube.
Non, mais finalement, la priorité des artistes maintenant, c'est de faire le buzz. Et puis, on sait que, par exemple, le tableau qui a suscité l'admiration ou qui a fait le buzz, quoi, tout simplement, il a été vendu beaucoup plus cher que le prix. Que le prix en question. Donc au final, les artistes veulent aussi s'enrichir à travers leur buzz.
Oui.
Peut-être.
Peut-être. Bien, c'est, je ne sais pas, une réaction, Morgane ?
Oui, j'ai trouvé l'autodestruction assez intéressante. Le côté dire qu'en fait, finalement, on attache beaucoup de choses à une œuvre et puis il suffit de la passer dans une broyeuse à papier pour qu'il n'en reste rien. Après, il y a une forme d'attachement quand vous dessinez quelque chose, donc c'est vrai que on a plus, c'est vrai que ça fait drôle. Le côté pécunier des choses, moi, m'importe pas trop. Je trouve ça un peu malsain, c'est cette espèce de montée des enchères sur des œuvres artistiques. Je trouve que ça en fait perdre une certaine forme de poésie.
Après, c'est mon point de vue. Je comprends que ce soit une façon de vivre aussi. Quel cas, effectivement, pourquoi pas. J'ai envie de dire, si les gens veulent mettre 1,5 million d'euros dans une œuvre qui s'autodétruit, allez-y.
Bon, le problème en ferronnerie, en métallerie, c'est plus compliqué d'avoir une œuvre qui s'autodétruit.
Il existe des broyeuses. Mais en règle générale, quand on rentre un escalier de 200 ou 300 kilos chez un client, c'est pour éviter de le passer à la broyeuse.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant l'exposition du...
Ah voilà, c'est ça, je vais faire venir une broyeuse. Ils doivent en avoir chez Environnement 48, je vais les appeler.
Allez, tout de suite après, le portrait chinois. Alors, le portrait chinois, on va vous proposer de nous dire un petit peu qui vous êtes au travers, par exemple, d'un animal. Quel est l'animal préféré un que vous dessinez, peut-être?
Je dessine rarement les personnes ou les animaux, parce que je ne sais pas faire, très simplement. L'animal que je préfère, je dirais, c'est le chien.
Un loisir que vous pratiquez
Ah, ici, il y a ce qu'il faut pour ça, beaucoup de rando et autrement, pas ici, mais de la voile.
Un endroit préféré en Lozère?
Les gorges du Tarn, c'est ce coin-là de la Lozère, c'est vraiment... C'est simple, hein, c'est ce que tous les touristes aiment peut-être, mais moi, je suis heureux là-bas, j'ai l'impression d'être en vacances.
Un endroit préféré dans le monde?
C'est compliqué, il y a tellement de belles choses. Les Cinque Terre, en Italie.
Une drogue favorite?
La voile. La voile, le bateau.
Une citation, peut-être? C'est dur comme ça, à froid.
Oui, à froid, je n'ai pas vraiment préparé. Moi, j'aime beaucoup, et c'est ce que je conseille souvent quand il y a des jeunes qui viennent faire des stages chez moi, c'est réfléchir avant d'agir.
Une qualité, un défaut?
Un peu trop perfectionniste, des fois. Et oui... Ça peut même des fois virer à l'entêtement.
Donc ça peut être une qualité et un défaut, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça dépend, voilà. Ça dépend, c'est au gré du vent.
Un plat préféré?
Le bœuf bourguignon.
Un verbe ou un mot?
Action.
Un héros de fiction?
Je vous laisse deviner.
Iron Man, peut-être?
Non. Non. C'est plus ancien que ça. Gaston Lagaffe. C'est Gaston Lagaffe, mon préféré, ouais.
Un rêve?
Avoir le temps de tout faire.
Et une deuxième coupure musicale, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter?
J'avais suggéré Flavia Coelho.
Allez, c'est parti.
Parce que t'aimes. Parce que t'aimes en bas, parce que t'aimes à gauche et ma droite, mon ciel est mon trépas, parce que c'est pour toi que j'imagine tout mes foutus stratagèmes, et que t'es la seule raison d'être de ce maudit théorème, parce que tu es tout ce que je voudrais être, tout ce que je ne suis pas, parce que tu es tout ce que j'aime. Parce que t'aimes en haut, parce que t'aimes en bas, parce que sans dessus, dessous, je suis plus qu'un fantôme et c'est tout. Parce que t'es mon seul problème et mon seul remède s'y va. Parce que t'es le poison et la cure, c'est la seule chose dont je sois sûr. Tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que t'es ma gauche et ma droite, je sais plus où je suis quand t'es plus là, parce que tu sais tout ce que je veux, et aussi tout ce que je ne veux pas, parce que tu es tout ce que j'ai, et tout ce qu'il me restera, parce que tu es tout ce petit lien qui font. ce qu'est l'air que j'expire. Être plus doux qu'on t'est dedans. Tu es tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Parce que t'es mon haut. Parce que t'es mon bas. Parce que t'es ma gauche et ma droite. Mon ciel et mon trépas. Parce que tu sais tout ce que je veux. Et aussi tout ce que je ne veux pas. Parce que la seule chose qui me hante, c'est la distance jusqu'à tes bras. Tu es tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Tu es tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Oh.
Voilà, le temps du jingle nous a permis de nous remettre à peu près en place. On est à peu près opérationnel. Et maintenant, c'est le moment de la chronique hashtag. Bastien, c'est à toi.
Oui, alors le hashtag Moment, j'ai fait sur Patrick Sébastien, qui a suscité beaucoup d'interrogations sur Twitter et sur les réseaux sociaux en particularité, puisque l'animateur du plus grand cabaret du monde et des abonnés bonheur ne sera plus à l'antenne à la rentrée prochaine sur France 2.
Quelle tristesse.
Et oui, quelle tristesse. Il avait dit « Même à mon âge, j'ai des choses à montrer et à dire aux téléspectateurs », hein, plaidait encore au début de juin Patrick Sébastien dans un entretien aux Parisiens. Alors l'animateur vedette de 64 ans n'aura vraisemblablement pas convaincu la direction de France Télévisions. Selon le même quotidien, France 2 lui a fait savoir en fin de semaine dernière qu'il ne serait pas reconduit à la rentrée prochaine en septembre 2019. Alors les deux émissions qu'il présente et produit, dont Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur, seront toutefois maintenues à l'antenne jusqu'au terme de son contrat en juin 2019. L'éviction de cette figure historique du service public apparaît comme le dénouement prévisible de sa relation houleuse avec l'actuelle direction de France Télévisions, incarnée par Delphine Ernotte depuis août 2015 et par son numéro 2, Takis Candilis, une baisse d'audience des derniers prime time. Et oui, pour cette saison 2, France 2 a rogné le nombre de premières parties de soirée accordées aux deux émissions de Patrick Sébastien, tout en enterrant le talk show humoristique qu'il souhaitait lancer. S'estimant poussé peu à peu vers la sortie, l'animateur arrivé en 96 sur la chaîne avait ces derniers mois multiplié les apparitions dans les médias pour dénoncer cette décision. Dans la dernière en date, une interview au magazine Téléstar, le 8 octobre, il avait lancé un ultimatum à son employeur, menaçant de quitter France 2 si son temps d'antenne n'était pas prévu à la hausse à la rentrée prochaine. Il avait dit « S'il me donne moins, je n'en resterai pas, et s'il me donne la même chose, je ne resterai pas non plus », a-t-il promis. Vraisemblablement, la direction du groupe audiovisuel public aura finalement pris les devants. Alors certes, la chaîne pourrait justifier ce choix en pointant la baisse d'audience des derniers prime time de Patrick Sébastien, puisqu'en 2017, Les années bonheur et Le plus grand cabaret du monde n'ont respectivement réuni que 2,6 millions et 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne, donc équivalent à ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, et selon Mediapart, et contre 3,6 et 3,5 millions en 2015. Il faut rajeunir les visages du service public. Hein. Il n'en demeure pas moins que le limogeage de l'animateur et producteur semble s'inscrire dans la droite ligne de la volonté de Delphine Ernotte de renouveler et de rajeunir les visages du service public. Elle avait dit hein, « On a une télévision d'hommes blancs et de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change », avait déclaré la PDG de France Télévisions au micro d'Europe 1 quelques semaines après sa nomination, souhaitant voir sur le petit écran des femmes, des jeunes et de toutes les origines. Alors des propos qui avaient fait alors déclencher une vive polémique et qui résonnent encore 3 ans plus tard avec la mise à l'écart de Patrick Sébastien. Alors cette stratégie avait conduit au départ d'autres présentateurs iconiques avant lui, hein, parmi eux Julien Lepers, 69 ans, Daniel Bilalian, 70 ans, Gérard Holt, 70 ans, Georges Pernoud, 69 ans, Kathleen Sellac, 64 ans, ou encore William Lémergie, 70 ans, et David Pujadas, du JT de France 2. Alors, la direction de France Télévisions et Patrick Sébastien n'ont pas souhaité faire de commentaires, mais bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur cette éviction. Mais en tout cas, tous les hommes blancs et de plus de 50 ans sont virés chez France 2.
Voilà, il ne fait pas bon être...
Michel Drucker est toujours là.
Et Michel Drucker est toujours là, mais son émission s'est raccourcie.
C'est parce qu'il dépasse les 80 ans, en fait.
C'est pour ça, mais son émission a été raccourcie.
Raccourcie, mais en même temps, il a eu une... Enfin, au début de la... Il avait, en fin de saison dernière, il avait une émission qui avait été supprimée et qui est revenue quand même. Donc, il a remplacé notamment Laurent Delahousse dans son, qui avait eu pendant la saison dernière la possibilité d'expérimenter une fin de soirée le dimanche à partir de 19h et qui finalement s'est arrêté cette année vu les coûts de production et le peu d'audience.
C'est ça, mais ils ont un chiffre à faire. France Télévisions, l'État leur a donné jusqu'à 2022 pour réaliser tant de bénéfices et tant d'économies. Et d'ailleurs, France 4 et France O seront les deux prochaines chaînes à être supprimées avant 2022.
C'est ça. Voilà,
ce qui est assez marrant quand on parle de...
Ils seront basculés en diffusion non linéaire et en numérique.
Alors qu'on parle d'une meilleure représentation de la France, de toutes les... toutes, voilà, bref. Toutes les ethnies, toutes les catégories. Et on enlève Franceau. Voilà, Franceau. Bref.
Et oui, et France 4 qui était aussi marquée par rapport à la jeunesse où... Il y a quand même une stratégie d'essayer d'aller conquérir de futurs.
Mais peut-être que la redevance audiovisuelle va peut-être baisser.
Bien sûr.
Bien, voilà. Merci pour ce hashtag du moment avec un salut à Patrick Sébastien.
J'ai hésité. Tu dois avoir le temps de nous écouter. Peut-être.
J'ai hésité à vous mettre un petit coup de bonhomme en mousse, mais je me suis dit non.
On n'a plus le temps.
On n'a plus le temps, voilà. Allez, la revue de presse, c'est juste après ça. Vous voyez que pendant les génériques, tout le monde discute et rigole. C'est la bonne ambiance dans ce studio. Revue de presse maintenant. Et on commence avec Eric. Un sujet qui lui fait pas trop rigoler.
Oui, le GIEC qui a rendu un rapport toujours plus alarmant lundi dernier. Alors, ses experts insistent sur les conséquences telles que des vagues de chaleur, des extinctions d'espèces, une déstabilisation des calottes polaires, une montée des océans sur le long terme si l'augmentation des températures au-delà de 1,5 degré se poursuit. Alors donc ce rapport, il a été montré, décliné, il est un peu plus clair. J'ai même l'impression qu'on nous l'a rabâché. Et j'en fais quoi, moi, de ce rapport? Qu'est-ce qu'on en fait tous maintenant? Est-ce que pour autant, tout le monde se sent concerné? Il parle aux politiques, ce rapport? Vous savez, ceux qui avancent à petits pas. Et là, je suis tombé sur une étude qui montre l'une des plus grandes catastrophes que pourraient engendrer ces événements climatiques extrêmes. Car en effet, ils pourraient menacer la disponibilité et l'accessibilité de la bière. Rien de moins que ça.
Ah non, pas la bière.
En effet, l'orge, la céréale la plus utilisée pour la fabrication de la bière, risque de voir ses récoltes diminuer, car c'est une céréale qui est particulièrement sensible aux événements météorologiques extrêmes, et qui dit diminution de la quantité d'orge, dit diminution des stocks de bière. La bière sera également de moins bonne qualité, avec des céréales qui auront subi de graves détériorations, et beaucoup plus chères, car plus rares. Voilà, maintenant que vous savez que la bière est menacée, je pense que vous avez enfin compris les conséquences désastreuses du réchauffement climatique sur notre avenir.
On avait déjà parlé l'année dernière du chocolat, qui était aussi menacé par ces problèmes-là. Donc voilà, pour les adeptes, c'est pour que tout le monde se mobilise, hein, entre les adeptes du chocolat ou de la bière.
C'est presque un produit de première nécessité. Hein.
C'est ça. C'est la boisson certainement la plus bu dans le monde après l'eau, quoi.
Et oui. Bon, c'est quand même dangereux.
Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Je salue nos amis du CSA qui nous écoutent.
Il y a des bières sans alcool. Je parlais des...
Léa, Jacqueline et son CDI à 79 ans.
Oui, alors je me remets de mes émotions après cette révélation. Donc moi j'ai décidé de parler non pas de bière, hein, mais d'une personne exceptionnelle qui s'appelle Jacqueline. Alors très peu d'héroïnes portent ce nom, ce qui fait d'elle une personne encore plus exceptionnelle. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler ? Eh bien tout simplement pour la féliciter, parce que Jacqueline vient de souffler ses 79 bougies et de signer non pas son testament, mais un CDI. Cette septuagénaire a décroché un emploi dans une petite crêperie de Concarneau dans le Finistère. Et dans une France où l'âge de la retraite ne cesse de reculer et où les plus jeunes des vieux piquent le travail de ceux qui ne devraient plus travailler, c'est quand même un sacré exploit. Alors certes, Jacqueline ne travaillera que 25 heures par semaine, hein, la flemmarde, et elle ne risque heureusement pas grand-chose, à part une foulure du poignet à force de retourner des crêpes. Mais on peut tout de même se demander pourquoi le patron a décidé d'embaucher une personne du troisième âge. Eh bien, Hubert, le gérant, n'en pouvait plus de chercher du personnel et ne trouvait personne pour la place qu'il proposait, et assure que tous les jeunes qui se présentaient voulaient, je cite, « bosser 4 mois l'été et toucher les allocations emploi derrière ». Il a proposé 5 CDI à l'issue de la saison, mais personne n'en a voulu. Heureusement, il ne nous sort pas non plus le sempiternel refrain de ceux qui refusent de bosser le soir ou les week-ends. Ah bah si, en fait, il le fait. En bref, devant cette jeunesse paresseuse, Hubert en a eu assez et a préféré embaucher Jacqueline, qui le tannait depuis des mois et qui assure, elle, avoir encore 30 ans dans sa tête. Alors, je pointe ici une petite incohérence, parce que je me demande si c'est vraiment le bon argument à présenter à Hubert, vu ce qu'il pense des jeunes. Mais enfin... Un beau conte de fées donc, même si la morale laisse à désirer. Avec Emmanuel Macron, Jacqueline trouvera sûrement sa place aux Invalides pour avoir su arrêter de se plaindre de la baisse de la CSG et de sa faible retraite pour enfin se remonter les manches et traverser la rue. Du côté d'Uber, on attend encore la récupération politique de Laurent Wauquiez qui ne devrait plus trop tarder.
Mais c'est une ubérisation finalement.
Moi ça me choque quand même, parce qu'il y a quand même avec tout... Enfin, on fait passer la jeunesse pour quand même des glandeurs en embauchant cette dame. Et en écoutant ce patron qui n'arrivait pas à trouver des employés, quoi. Mais s'il propose un CDI avec 25 heures par semaine, effectivement, c'est peut-être compliqué. Puis surtout quand on sait le prix du gasoil. Enfin, est-ce qu'il vaut mieux travailler et se déplacer en voiture avec 1,55€ le litre que de rester peut-être chez soi et voilà, quoi, ou trouver un autre emploi un peu mieux. C'est un vague débat. Mais on fait encore passer la jeunesse pour... Pour des personnes qui ne veulent pas travailler. Quand même.
C'est nos jeunes de l'équipe qui, aujourd'hui, poussent leur coup de gueule.
Et puis le problème de la restauration, pour le connaître bien, c'est qu'aussi, c'est un métier mal payé et qu'il faut aussi peut-être qu'ils se remettent en question sur les horaires et le salaire.
Est-ce que Jacqueline, elle se pose ces questions ?
Non. Mais non, parce que Jacqueline, alors... elle a un deuxième salaire qui s'appelle la retraite.
Bon, et Morgane, vous recruteriez un senior.
Un senior,
enfin non, mais oui, à 79 ans.
Ça m'est arrivé de... J'ai eu une fois un moment compliqué dans la vie de l'atelier où il a fallu embaucher quelqu'un au pied levé en intérim pour 2 jours et c'est avéré que c'était le papa d'une de mes amies qui venait juste d'aller à la retraite et qui se tournait les pouces. Il m'a dit « Tu veux pas m'embaucher ? Je vais t'aider. » Donc je l'ai embauché en intérim. Et sachez que c'est très compliqué d'embaucher un retraité en intérim, qu'il faut des autorisations et que d'un point de vue administratif, j'invite mes collègues entrepreneurs à regarder le truc à l'avance parce qu'on est tombé des nues. Il vous faut une autorisation de la préfecture, par exemple. C'est assez, assez drôle. Voilà.
Donc Hubert a dû en passer par là. Merci, Morgane, pour cette réaction. On parle maintenant du lavage des mains.
Oui, alors un autre sujet un peu moins grave. Alors, comme chaque année depuis 10 ans, le 15 octobre est consacré à la sensibilisation sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Alors, leur lavage permettrait d'éviter 1 million de décès. Alors, la source MaxiScience explique en quoi ce simple geste participe à notre bonne santé et peut surtout sauver des vies. Alors, lave-toi les mains. Hein. Combien de fois on a entendu enfant cette injonction en rentrant à la maison après avoir joué dehors ou avant de passer à table. Et comme bien souvent, et même si cela nous donnait l'impression de perdre du temps, c'était bel et bien pour notre bien. D'après l'UNICEF, chaque année, près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays en développement meurent de maladies diarrhéiques et de pneumonie, des pathologies liées à des virus ou des bactéries. Et selon l'OMS, sur les 1400 décès d'enfants provoqués chaque jour par la diarrhée, plus de 800 sont imputables à des services d'eau, d'assainissement ou d'hygiène défaillants. Alors selon les experts, le lavage des mains au savon pourrait permettre d'éviter 1 million de décès, alors c'est pas rien, et en effet, 80% des infections se transmettent par les mains et leurs conséquences peuvent être gravissimes. Ce simple geste, à condition d'être correctement exécuté, doit être enseigné à tous, des parents aux enfants, en passant par le personnel médical ou les personnes en contact avec le public. D'ailleurs, chaque année, le 5 mai, l'Organisation mondiale de la santé lance une campagne internationale « Sauver des vies, pratiquer l'hygiène des mains », qui s'adresse principalement aux professionnels de la santé. Plus d'un Français sur trois ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes. Alors c'est quand même important, et cette statistique peu ragoûtante, révélée par un sondage par l'Institut BVA en 2015, souligne à quel point on reste encore nombreux à être réticents au lavage de mains. Et il est nécessaire de rappeler que 47% des maladies, dont le rhume, la gastro-entérite ou même une conjonctivite, pourraient être évitées si l'on souscrivait à une bonne hygiène manuelle. Alors la question que vous allez me poser, c'est comment bien se laver les mains. Alors seul le passage sous l'eau ne suffit pas, l'utilisation du savon de préférence liquide est indispensable et la température de l'eau importe peu. En revanche, l'opération doit durer au moins 20 secondes et l'on doit bien frotter entre les doigts, autour et sous les ongles et des poignets. On prend le temps de les rincer avant de les sécher avec une serviette uniquement réservée à cet usage ou avec des serviettes à usage unique. Alors, c'est pas très environnement, mais c'est pour notre santé. Et lorsqu'on n'a pas accès à un point d'eau, on peut utiliser ponctuellement un gel hydroalcoolique, mais sa teneur en alcool a parfois tendance à déshydrater l'épiderme. Voilà, c'était une petite...
voilà, c'était les conseils pour un automne loin de différentes maladies que tu as citées et qu'on ne nous souhaite pas.
Alors moi, j'entends, mais dans les pays en développement, comme tu le dis, quand on n'a pas accès ni à l'eau, ni au savon, ni au gel hydroalcoolique, on fait comment?
C'est ça, et ben,
voilà. C'est tout le problème. C'est tout. D'où la nécessité de continuer à avoir de l'aide au développement pour permettre d'accéder à l'eau notamment. Pour moi, c'est quelques mots sur le Brexit, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end sur le sujet. Vous savez que le retrait britannique de l'Union européenne est prévu pour le 29 mars 2019, mais il y a un sommet européen qui s'ouvre demain soir, mercredi, à Bruxelles, qui devait acter finalement un accord sur ce Brexit. Et malgré des efforts intenses de discussion, notamment le ministre en charge du Brexit, au niveau anglais, qui a passé une partie du week-end à Bruxelles, en fait, il reste un point dur finalement dans les négociations, qui est le statut de l'Irlande du Nord, et notamment le fait de vouloir ou non s'inscrire dans l'union douanière européenne. Et c'est vrai que c'est un enjeu important sur ce territoire aussi de l'Irlande, qui a été marqué, on le sait, par l'histoire et par ces conflits entre Irlande du Sud et Irlande du Nord, qui se retrouvent un peu réactivés, donc ce qui fait des choses vraiment un peu difficiles à imaginer. Notamment, il est difficile d'imaginer pour beaucoup de gens d'avoir une frontière physique entre les deux Irlandes. Ce qui pourtant, si le Royaume-Uni quittait l'Europe, aurait été la condition. Voilà, donc il y a encore plein d'étapes qui restent à franchir pour cela, mais vraisemblablement, c'est mal barré pour le sommet européen qui commence demain. Et donc on espère que c'est qu'ils vont trouver une solution. Sinon, la solution, en tous les cas, la Commission européenne et le Conseil travaillent très fortement sur l'option du no deal, c'est-à-dire un scénario de divorce sans accord qui serait le plus pénalisant et pour les Européens et pour les Anglais. Donc un sujet à suivre, mais qui fait un peu bouger beaucoup de choses. Voilà, voilà.
Ça n'empêche pas Theresa May d'entrer en dansant.
Sur Dancing Queen, oui, c'est ça. Pour terminer, on va rappeler la possibilité de visiter l'entreprise Steel Lozère, qu'on a déjà un petit peu découverte tout au long de cette émission avec Morgane Lemoal. Donc c'est lundi 22 octobre à 10h, c'est gratuit. Vous pourrez découvrir son atelier, son travail. Et pour les renseignements, c'est sur le site de la CCI, lozere.cci.fr, 04 66 49 00 33 pour les inscriptions. Voilà.
Merci en tout cas de m'avoir reçu et bonne journée à tous les auditeurs.
On retrouve cette émission en rediffusion le jeudi à 19h, le mardi à 12h30, Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Los Actuali sur Facebook. On remercie vraiment beaucoup notre invité d'être venu aujourd'hui. Et on vous souhaite à tous une très bonne quinzaine. Et juste après nous, l'agenda culturel, on retrouve Marie.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.